Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur et le privilège d'interviewer Nathalie Pérez. Bonjour Nathalie.
Hey, bonjour, bonjour Stéphanie.
Bonjour. Nathalie, c'est une entrepreneuse dans la restauration, mais elle a aussi plein d'autres casquettes parce que visiblement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie aussi de dévorer la vie avec du coaching et du master coaching et elle nous dira en quoi ça consiste. Ces interviews, pour rappel, elles ont une double intention. Rassurer et inspirer les femmes qui ont envie de créer leur entreprise, qui ont déjà pris la décision, mais qui ont quand même plein de peurs et plein de doutes. Mais c'est aussi pareil pour inspirer et rassurer les femmes qui sont sur le début du parcours et qui ont toutes ces peurs, ces doutes, des montagnes émotionnelles, et puis peut-être le syndrome de l'imposteur qui les fait se remettre en question trop souvent et qui baisse leur énergie. Donc, Nathalie, tu vas nous partager ton expérience. Tu as créé un traiteur, une société de restauration qui va du champ à l'assiette. Donc, tu vas nous expliquer ce concept-là. Et puis, tu t'es lancée dans le coaching récemment. Donc, c'est génial. Et tu te poses des questions par rapport à ça. Donc, je suis preneuse de toutes ces casquettes et de toutes ces postures, finalement, que tu as. Donc, Nathalie, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de faire trop succinctement et puis nous dire ton actualité professionnelle?
Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, merci Stéphanie pour ces belles paroles que je vois ce matin, c'est adorable. Alors, écoute, par rapport à ça, c'est sûr que, alors je dirais en tant que femme, comme toutes les femmes, généralement, donc je dirais une double casquette, l'entreprise à la maison et l'entreprise tout court en parallèle. Alors, l'entreprise à la maison, c'est ce qui, je dirais, me porte aussi le plus. Je suis une maman de 4 enfants. Donc voilà, le plus âgé à 25 ans et le plus jeune à 10 ans. Donc je dirais ce sont mes moteurs dans la vie. Ce sont mes coachs au quotidien qui me motivent et qui me boostent. Et puis en parallèle, j'ai toujours été intéressée par différents domaines et je n'ai jamais collé sur une ligne, une trajectoire très très rectiligne comme on a toujours voulu en tout cas encourager beaucoup de gens, c'est-à-dire choisir une voie d'études derrière un secteur, un domaine, et progresser petit à petit dans une entreprise. Les anciens paradigmes qu'on aborde aussi lors des études de coach à l'INA. Donc, c'est une démarche que j'ai rencontrée qui ne m'a jamais collée. Et je pense que ça peut-être interpeller, en tout cas, beaucoup de femmes qui voudraient se mettre, je dirais, à leur compte ou créer quelque chose. C'est d'avoir une fibre, je dirais, de créatrice, observer autour de soi et voir ce qui nous correspond pour pouvoir, je dirais, aller au-delà d'un schéma tout tracé. Donc, alors pour aller dans ce sens, Stéphanie, moi, pour me présenter aussi, j'ai à la base plutôt une formation en gestion de patrimoine, donc ce qui n'a rien à voir avec la restauration. Pour dire que je passe un petit peu du coq à l'âne, mais c'est quelque chose qui me ressemble et qui peut ressembler beaucoup d'entrepreneuses. Donc, gestion de patrimoine, j'y ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait atterrir dans des banques. J'ai été directrice de banque aussi, entre autres à Neuilly-sur-Seine, où là, j'avais un portefeuille de clients, c'était, je dirais, des entrepreneurs avec de belles boîtes. Ça pouvait être des indépendants, mais également des boîtes vraiment plus importantes. Et ça a été pour moi comme une sorte de, au-delà de la formation gestion de patrimoine, une sorte de corridor où tu peux observer à travers le petit trou de la banquière, je dirais, le fonctionnement d'une entreprise et le contact au chef d'entreprise. Et tu découvres tous les métiers possibles. Tu découvres tous les secteurs. J'ai découvert vraiment des secteurs incroyables et l'esprit d'entrepreneur à ce moment-là. Voilà. Donc, et ça m'a donné envie de sauter le pas.
Ça t'a donné envie de sauter le pas dans un domaine que tu ne connaissais pas du tout, alors la restauration?
Pas du tout. Alors, pourquoi la restauration? Déjà, globalement, je pense que c'est un lieu de convivialité. Je me sentais en tout cas enfermée dans la banque. Très belle clientèle. Globalement, tu n'avais pas une liberté d'agir comme tu le souhaitais. C'était plutôt il fallait être rentable, ce qui est normal aussi, mais par contre, avec des produits de base, des ventes de produits pas spécialement adaptées aux clients. Ce qui m'a fait, en fait, compte... passer le pas de l'entrepreneuriat. Pourquoi dans l'alimentaire, par passion, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et pour moi, c'était créer un lieu d'échange et de convivialité. Pareil, je dirais, en parallèle de la banque, qui pouvait toucher tous les domaines possibles. J'aime le côté pluriel. Aussi bien dans la banque, tu pouvais toucher, je dirais, vraiment toutes sortes d'entrepreneurs. Et pareil, dans la restauration, quand on avait une partie livraison aux entreprises, tu touchais pareil des créateurs, Sonia Riquel, des défilés de mode. Donc, tu rencontrais pareil, j'avais cette casquette qui était différente, mais je dirais toujours plurielle et ouverte sur le monde. Quelque chose qui ne m'enfermait pas, en fait. Donc, voilà, je dirais que ce serait un peu le parallèle que je pourrais constater grâce à tes questions ce matin.
Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ou l'événement déclencheur pour quitter la banque et se lancer dans une autre aventure ?
Un manque de vision. Un manque de vision, on te vend une sécurité et un salaire. Voilà, c'est un peu ce que propose, je dirais, le monde sociétal. Et bon, moi, j'ai la cinquantaine, mais déjà, je dirais, à l'époque, un peu moins pour la génération d'aujourd'hui, qui voyage, qui bouge, mais je dirais, moi, en tout cas, la mienne, c'était ça, salaire contre... et je trouvais que, globalement, je vibrais dans la rencontre avec ces gens-là qui étaient vraiment, pour moi, des créateurs, novateurs, prenaient des risques, voilà. Mais j'étais dans un cadre bancaire ultra fermé, pas ouvert, pas à l'écoute de ses salariés. En fait, compte, le manque de vision, t'es un pion. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore malheureusement le cas, parce que je rencontre pas mal de gens et que je vois beaucoup de mouvements. Donc, je pensais qu'en quelques années, ça allait peut-être s'améliorer. Mais bon, voilà, je pense que ce que l'on vit tous aujourd'hui, ces mouvements et ces reconversions, confirment cette vision que j'avais déjà à l'époque. Donc, non, je ne me voyais pas attendre une retraite, pas être vivante, être coincée, ne pas participer à quelque chose de plus vaste, plus grand, qui nous correspond véritablement.
C'est un cheminement, une réflexion qui a pris longtemps ?
Non.
Non ?
Non. En fait, compte, je pense qu'on parle toujours de signes. Ben moi, le signe à l'époque, très sincèrement, ça a été le voir que je me levais difficilement le matin pour aller travailler. Alors, globalement, c'est un signe déjà. Quand des petites angoisses peuvent paraître, et puis qu'à un moment donné, tu commences à prendre du poids, donc des petits signes récurrents et qui se rajoutent. Et puis là, tu te dis, bon, à un moment donné, je ne suis pas heureuse ici. Je ne suis pas heureuse malgré le fait que, encore une fois, pas tout est négatif. Cette clientèle était pour moi un bijou, c'était une ouverture sur l'entrepreneuriat, une vision, un vrai plaisir de pouvoir les accompagner financièrement, mais un cadre ultra rigide et un manque de perspective. Donc, il y avait un choix à faire. Alors, pourquoi la restauration ? Pourquoi la restauration, c'était ta question ? Je me suis dit, pourquoi pas ? Je pense que c'était pour moi une façon un peu peut-être régressive de me retrouver dans une entité où globalement tu pouvais te chouchouter et chouchouter les gens qui venaient à ta rencontre par le biais de la nourriture, revenir à quelque chose d'artisanal aussi. Quand on jongle avec certains financements, des millions, on perd un peu aussi, on perd le sens de la réalité. On a l'impression de faire que du virtuel, ça reste des écritures monétiques, voilà. Et tandis que là, on revient à quelque chose d'essentiel, de concret, et de fondamental à tout le monde, déjà, c'est se restaurer, mais voilà, et de quelle façon, en créant du lien dans un quartier. Alors, ne connaissant pas la restauration, je suis partie je ne suis pas formée, je suis partie par contre avec le postulat que choisir une franchise allait être pour moi plus facile pour pouvoir démarrer. Alors, j'en parle parce que ça peut aider peut-être d'autres personnes à se poser la question d'un point de vue restauration. Alors, pourquoi pas ? Ça peut être une première approche. Le concept que j'avais choisi, moi, à l'époque, je ne sais pas si tu connais, Stéphanie, c'était l'INAS Sandwich. C'est un concept qui est venu, entre autres, par une aristocrate libanaise qui voyageait beaucoup, qui était top modèle à l'époque. Et comme elle voyageait pas mal, elle avait repéré aux États-Unis un concept de restauration rapide, mais un peu luxe. Les Libanais sont beaucoup dans la restauration un peu select, un peu savoureuse. Et donc, elle a ramené en France un concept qu'elle a créé de toutes pièces. Donc, une entrepreneuse, tu vois, on parle de femme entrepreneuse. Elle était pourtant mannequin, tu vois, donc pas dans la restauration. Mais elle voulait créer quelque chose, voilà, qui pourrait aider les femmes qui voyagent et qui sont dans le luxe ou la beauté à se restaurer sainement Pareil pour, je dirais, tous les. Ben, aujourd'hui, la restauration rapide qui permet de restaurer beaucoup de gens qui travaillent et qui ont très peu de temps. Donc, elle était assez en avance. Elle a appelé ça en France il y a à peu près maintenant 25 ans. Et elle en a fait un concept sous format franchise. Donc, j'ai appris à travers ce format-là, qui reste familial, et j'ai repris en fait compte avec mon mari un fonds de commerce. Donc, je ne l'ai pas créé de toute pièce, mais je l'ai repris dans Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés.
Et là,
Et
c'est
c'est comme ça
toujours
que je me suis mis, voilà.
le contexte, enfin, ton entreprise actuelle, c'est Apego, c'est toujours avec cette franchise-là?
Non, pas du tout. Donc j'ai commencé comme ça, dans ce même local,
Oui.
et à travers le temps, j'ai fait évoluer en fait compte le concept, je dirais selon les demandes en fait compte du marché. Et voilà, je suis passée également par un grand partenariat avec un gros groupe pour essayer de développer moi-même une franchise il y a quelques années, mais c'est quelque chose qui n'a pas abouti. Voilà, qui n'a pas abouti, mais je pense plus par notre volonté.
D'accord.
C'est compliqué.
Oh.
Voilà. Donc, j'avais cette fibre, en tout cas, entrepreneuriale, snacking de qualité. Voilà, c'est pour moi, ça répondait en fait compte aux salariés, aux chefs d'entreprise qui veulent travailler mais aussi manger vite, surtout dans Paris. Mais je l'ai fortement amélioré pendant la période Covid.
Parce que ton
Donc
concept
aujourd'hui, je
est...
suis complètement autonome.
D'accord. Et quand on arrive sur ton site, la première chose qui saute aux yeux, c'est le nom et du champ à l'assiette. C'est-à-dire, ton concept, c'est que les producteurs t'amènent ce qu'il faut. Tu n'as pas d'intermédiaire et tu le fais sur place pour le midi, c'est ça?
Alors voilà, j'avais commencé déjà un peu, je dirais, avant la période du Covid, je dirais vraiment essayer de révolutionner le restaurant avec mes propres valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sortais de la banque, de nos désirs et de nos valeurs. Donc, j'ai suivi en fait une formation chez Ferrandi Entrepreneur pendant le confinement et c'était en présentiel. Donc, c'était vraiment pour moi me confronter au bout de quelques années véritablement à la formation professionnelle culinaire que je n'avais jamais fait. Je portais vraiment plutôt la casquette entrepreneuriale. Et puis là, écoute Stéphanie, moi j'y ai pris non seulement du plaisir, c'était très intéressant, mais j'y ai vu aussi ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ce qui m'a permis de créer Apego, une nouvelle version du champ à l'assiette, c'est-à-dire travailler, faire un meeting pot de mon savoir d'avant avec mes nouveautés, c'est-à-dire continuer à manger rapide et sain, par contre rapide, oui, donc j'ai gardé cette casquette-là, par contre pas à n'importe quel prix, donc je n'achète uniquement que direct producteur, petit producteur. Ce qui est plus compliqué pour Paris, avec Rungis, donc j'y vais jamais, métro, j'y vais pas. Je fonctionne avec la coopérative bio d'Île-de-France, donc c'est direct petit producteur, et également avec Biocoop Restauration. Ils ont une branche également pour des produits qui vont un peu plus loin, mais qui restent toujours sous le système coopératif, pas d'avion. C'est un bio, je dirais, éthique et travaillé, où les petits producteurs sont préservés. Donc, pareil pour nos oranges, tu vois, donc c'est pareil, c'est un petit producteur, c'est une entreprise familiale espagnole depuis 1950 qui commercialise et ses oranges et les machines à jus. Donc, tout est fait, en tout cas, je dirais, la période Covid et fermeture ne m'a pas enrichi financièrement, mais on m'a enrichi véritablement en termes de contacts, de démarches. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est dans un concept abouti de 100% petits producteurs, y compris pour le poisson. Je fais pour la viande, mais pour le poisson, pour tout te dire, je passe par des piscicultures écologiques en France.
En France, d'accord. D'accord, donc ça représente de très très belles valeurs qui sont que tu avais déjà en fait avant le confinement. Donc effectivement, le confinement a fait
Ça.
basculer notamment d'autres restaurateurs sur cette démarche-là, mais toi finalement tu avais anticipé ça, donc bravo d'avoir réussi à le faire. Si on revient à ta création d'entreprise. Donc, ça fait combien de temps
Ouais.
déjà? Je crois qu'on n'a pas dit la date. que tu as
Alors,
créé?
j'avais repris ce restaurant quand je suis partie de la banque, donc je l'ai créé en 2006.
2006, d'accord. Est-ce que si tu te replonges à l'époque, est-ce que tu te rappelles les principaux obstacles que tu as dû dépasser?
Mes peurs, parce que là, tu sors d'un système, je dirais, non seulement tu as tes propres peurs, bien que globalement, on arrive à, quand on a une réelle motivation, on arrive à les dépasser, mais tu as aussi les peurs de l'entourage. Ça peut être la fratrie, ça peut être, ça peut être ma sœur, ça a été le cas, par exemple, puisqu'elle rentrait dans un schéma, pourtant elle est ingénieure chimiste, mais voilà, créée dans une grosse société. Mais pour elle, c'est la voie de la protection, de la sécurité pour une mère de famille. Il faut surtout pas prendre de risques. Elle a raison en soi, c'est pas évident. C'est sûr que c'est pas évident. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est ou tu t'écoutes ou tu tombes malade. Donc l'un dans l'autre, à un moment donné, je sais même plus si c'est une question de choix, c'est une question de vitale. De se dire si j'ai envie de continuer à vivre sereinement, ben il faut que je fasse le pas. Donc je dirais mes peurs. Hein. Les peurs de l'entourage, les peurs qui peuvent être liées à la sécurité financière. Est-ce que je vais gagner ma vie? Est-ce que je passe le pas? Est-ce que j'ai une soupape de sécurité? Donc, je sais qu'on va y arriver à Stéphanie à un moment donné, mais du coup, à ce moment-là, je conseille, je dirais, c'est peut-être qu'autant le faire là maintenant. Pardon. Eh bien, écoute, c'était pas, je ne sais même pas si ça existait à mon époque. Je parle comme une grand-mère presque, hein. À mon époque, mais ça serait de se faire coacher, hein. Ça serait de se faire accompagner. Hein. Parce que globalement, ça aurait aidé beaucoup plus, mais en dehors de l'aide, ça aurait questionné le désir profond. Ça aurait permis de mettre à plat, comment dire,
Si
le
c'était
champ des possibles.
le champ des
Et
possibles.
même le champ des possibles. Aujourd'hui, on se limite sur une voie, on voit, c'est en fait une substitution, on dit pourquoi pas là, mais est-ce que véritablement ça nous fait vibrer? Est-ce qu'il faut attendre d'être totalement en adéquation aussi pour passer le pas? À ça, moi, je te répondrai non. Je pense que très sincèrement, c'est dans le chemin que tu te réalises et que tu perçois beaucoup de choses.
Tu veux dire que toi, si tu te rappelles cette époque-là, tu n'étais pas totalement en adéquation quand tu as décidé de passer le pas?
C'est un point d'interrogation.
C'est un point d'interrogation.
Bien
Est-ce
sûr, ça peut être une des facettes. Une des facettes. Est-ce que j'étais en pure passion? Je te dirais globalement non. Je te dirais globalement non. J'étais encore en mode peut-être perfectionnement, rentabilité. J'étais encore, je sors de l'univers de la finance. J'étais en mode production. Je m'imaginais développer, monter peut-être une franchise. Donc j'étais restée sur quelque chose quand même, malgré le fait que tu prends quelque chose de très plutôt un peu innovant, mais dans un mode de productivité. C'est là où ça m'interroge maintenant après coup, de me dire, avec ce concept de Pego du champ à l'assiette, qui est quand même un peu plus récent qu'à quelques années, maintenant très peu d'années, de me dire véritablement, avec de l'existant, j'y ai rajouté des valeurs. Le but, c'est pas non plus de tout laisser tomber, mais tu peux également, avec ce que tu as créé, ne pas tout remettre en cause, mais y apporter une partie fun, une partie qui te ressemble vraiment, voir un peu je dirais, les facettes que tu peux travailler toi-même. Donc voilà, je pense qu'à l'époque, ça aurait été très bénéfique de rencontrer une personne comme Stéphanie,
Pourquoi pas?
de
Ou
rencontrer,
toi?
et les questions que tu me poses aujourd'hui, eh ben, Stéphanie, tu aurais dû me les poser bien à
C'est vrai, c'est vrai.
l'époque. Ça reflète, en tout cas, c'est le conseil que je donne aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose d'aisé. À l'époque, je dirais, même il y a quelques années, quand je dis à l'époque, il y a quelques années, c'était tu faisais un travail sur toi parce que tu n'allais pas bien, parce que tu avais un tournant dans ta vie, un événement. Et là, tu allais au plus profond de toi-même et tu pouvais en fin de compte, c'était un des biais. Ça peut être la philosophie, mais globalement, ça reste à l'état d'intellect. Tu ne le vis pas personnellement. On est d'accord? Le coaching permet ça, de vraiment de rentrer en introspection, mais de se poser aussi toutes ces questions, une ouverture sur, je dirais, ça provoque beaucoup de possibilités. Voilà, que globalement, et ça enlève l'isolement. Je dirais, ça supprime l'isolement qu'on peut ressentir dans cette transition. Et ça peut accompagner au passage à la transition et passage à l'acte. Voilà.
Est-ce que toi, tu te rappelles, indépendamment de ce que tu as vécu dans la banque et du coup qui t'a fait dire qu'à un moment il fallait quitter, est-ce que tu avais quand même déjà dans la tête que tu voulais être entrepreneuse un jour?
Pas vraiment. Très sincèrement, j'ai suivi un peu les idéaux de la famille. Mon système éducatif, je pense qu'il était présent, pour être sincère, avec un certain recul. Il y a aussi une volonté, alors tout dépend du cheminement de chacun, une volonté de coller aussi à ce que l'on attend de soi,
oui.
Voilà, pour pouvoir être aimé, ne pas être jugé. Donc je pense qu'il y avait cette période-là. Si je réfléchis, je suis honnête aujourd'hui. Voilà. Et globalement, si tu n'en as pas conscience, tu restes là-dedans, quoi.
La
Il y a des
loyauté
réveils qui
familiale,
peuvent être. Comment?
c'est la loyauté familiale qui t'a fait coller à ce premier emploi sécurisé, avec un cadre,
Oui,
avec.
bien sûr.
D'accord.
En tout cas, j'ai des parents pharmaciens pour qui les études, c'était vraiment c'était essentiel. Le statut social compte aussi. C'est encore une fois sans jugement de valeur, ça rentre dans un schéma, voilà, qui a été aussi le leur et qui peut se comprendre. Qui peut se comprendre, qui n'est pas non plus. Voilà. Mais du coup, très sincèrement, voilà, je dirais grandir dans une famille où, je dirais, la part de soi, où le soi profond n'est pas essentiel, n'est pas abordé. Donc, globalement, tu fais avec ce que tu reçois, même si tu te poses beaucoup de questions, que tu ne te sens pas totalement à ta place, ou que tu voudrais voir autre chose, c'est quand même difficile de te sortir de quelque chose qui est là, qui te rassure aussi, qui est présent, qui te regarde. Donc, en tout cas, moi, voilà, ça a été le cas. Moi, ça a été le cas.
Est-ce que tu dirais que parce que tu as côtoyé par ton métier des entrepreneurs, des créatifs, des innovants, comme tu as dit tout à l'heure, ça t'a donné une sorte de permission à toi de te dire, bah, pourquoi pas moi?
Alors pourtant, j'avais mes parents qui étaient à leur compte, hein, pharmaciens, et ça restait dans le domaine médical avec un milieu très fermé. J'y allais souvent, mais ça reste du contact pharmacien particulier, donc un peu plus dans le côté, je dirais, presque psy. Donc, tu avais ce côté-là, mais oui, par contre, voir des entrepreneurs, moi, je dirais, au-delà de m'autoriser, déjà, ça t'ouvre les yeux sur ce qui existe ailleurs, sur ce qui est possible. Tant que tu n'as pas de comparaison, tant que tu ne vois pas, quand je dirais de comparaison, véritablement, où tu rentres à travers la banque, tu pouvais rentrer dans un bilan financier, tu pouvais dire est-ce que le secteur est porteur. En fait, quand tu rentres comme une petite souris dans quelque chose d'intime, hein, intime, on dirait, dans le sens où c'est vraiment la branche professionnelle d'un dirigeant ou d'une dirigeante, mais qui fait vraiment partie intrinsèque de sa vie. Et globalement, il n'y a pas de tabou. Je dirais, on peut se poser la question du rapport à l'argent, mais dans ces discussions-là, et d'autant plus quand c'est à huis clos dans une banque, bah, tout s'ouvre. Hein. Tu vois que globalement, au-delà de ça, c'est de l'intime qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent à travers la finance, en fait, et qui se dénouent. Et là, je me suis dit, mais c'est par là qu'il faut passer. Hein. Je voyais qu'en fait, c'est terrible à dire, hein, Stéphanie, mais on ne prête qu'aux riches. Mais c'est tout à fait ça. Donc, j'ai vu que globalement, tu es entrepreneuse ou entrepreneur, non seulement tu mets en sorte que tu crées quelque chose qui peut avoir plus ou moins de sens ou pas, mais derrière, tu peux aussi développer, concrétiser des rêves personnels parce qu'on prête aux entrepreneurs. C'est une réalité. Et bon, c'est ce qui m'a fait en partie aussi quitter la banque. Je trouvais que c'était un monde pas juste, pas très équitable au niveau de certaines choses, mais qui a des bons côtés aussi. Voilà, c'est pas tout n'est pas binaire, mais c'est un monde pas très juste.
Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, qui se posent la question d'entreprendre ou qui sont encore une fois sur le début du chemin, tu dirais que justement, si dans notre entourage, notre famille, notre éducation, on n'a pas d'exemple d'entrepreneur, on aurait intérêt à essayer d'en côtoyer pour voir un peu cette réalité avant de passer le cap? Ou est-ce qu'il faut y aller sans se poser de
Complètement.
questions?
Non, non, complètement. Moi, je dirais déjà, peut-être. S'interroger sur ses propres intentions. C'est être créateur ou chef d'entreprise, pourquoi? Est-ce que c'est par défaut, c'est-à-dire j'en ai marre d'un job et j'y vais dans autre chose, mais sans conviction et sans que ça me porte, mais ça sera une spirale infernale. Ce serait éventuellement de se poser et de se questionner sur l'intention. Est-ce que c'est une fuite ou est-ce que c'est vraiment une réalisation de soi? Parce qu'une fuite, ça serait peut-être une première idée, une première approche, mais pas suffisante. Mais une fuite avec quelque chose de travaillé derrière, ça éviterait beaucoup de déboires, quoi. Donc, déjà, se poser cette question-là. Et puis, bien entendu, si on n'est pas très, je dirais, alors soit peut-être on a déjà une vision d'un secteur donné, et dans ces cas-là, peut-être aller questionner, aller à l'encontre ou des associations peut-être d'entrepreneurs ou solliciter quelques stages, ça peut être ça aussi en intra, d'une semaine, et puis de voir comment c'est véritablement. Moi, je dirais qu'au-delà de la vision, il faut quand même mettre les pieds de quelque part, discuter, mais après peut-être mettre en exercice, en action, sa vision. Ça peut faire gagner beaucoup de temps à travers des stages gratuits, des choses comme ça, mais qui permettent de se dire, tiens, je me confronte. Combien font, par exemple, j'en ai vu autour de moi, même on fait des années d'études de médecin pour se rendre compte que ce n'était pas le métier qu'ils voulaient. C'était l'idée qu'on s'en fait. Donc, confronter, bien sûr, son idée aux autres, ceux qui exercent déjà, et peut-être passer à l'action par des stages. Des petits stages de 2-3 jours, une semaine, autour de soi si on connaît des gens, voilà.
Là, c'est aussi un peu l'objectif de ces interviews, finalement, c'est de mettre dans la lumière quel est le quotidien d'un entrepreneur. Toi, en quelques mots, comment tu qualifierais la différence entre un salarié et un entrepreneur dans le quotidien, dans les événements, dans la gestion des émotions?
Je dirais que globalement, je ne sais pas s'il y a une définition, une scission très, très nette, très claire. Je pense que dans tout salarié peut être en veille, hein, un entrepreneur à son niveau. Donc, très, très sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait une scission à faire. Après, est-ce qu'on peut, on a l'envie ou pas? Est-ce qu'on se le permet ou pas? Ça sera de réelles questions. Après, je dirais entre les deux, ce qui va être vraiment une vraie différence, si on est dans sa, je dirais, mission de vie, dans son trip, c'est de ne plus avoir de travail, quoi. Ça sera dans de l'ordre du plaisir. Donc, globalement, une énergie qui est décuplée, un sentiment de nos limites. C'est un perpétuel questionnement, dans le sens où un entrepreneur doit pouvoir toujours remettre son entreprise au goût du jour, être en veille sur ce qui se fait autour. Donc globalement, ça peut être incommodant pour certains parce que c'est source de manque de sécurité, parce que tu ne peux pas rester pareil tous les ans, quoi. Comme le dit si bien David Lefrançois, il faut réinjecter 10% de nouveauté, et c'est vrai, c'est le minima. Donc, globalement, c'est toujours un terrain mouvant. Alors ça, est-ce qu'on est prêt à l'accepter ou pas? Je pense que dans chacun, il y a un côté très créatif. L'humain, il est né pour ça. Et peu importe sa matière, hein, ça peut être une spiritualité, ça peut être du dessin, ça peut être... c'est un rapport aux autres. Donc non, dans chacun. Après, c'est est-ce qu'on se l'autorise? Est-ce qu'on s'interroge? Est-ce qu'on ose? Est-ce qu'on peut aussi, des fois? Je dirais que... Une maman solo, c'est compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Je dirais que c'est une question du moment. Est-ce que c'est possible sur le moment? Après, ce qui va peut-être... Moi, je sais qu'en tout cas, ce qui m'a plu, c'est ce côté de limites et c'est un apprentissage constant. C'est-à-dire que j'adore apprendre. Je me remets en question tout le temps. J'ai très sincèrement l'impression, même à 50 ans, d'avoir 30 ans. Je côtoie des gens de tout âge. Ce n'est pas une limite pour moi. Dans un métier qui bouge, au niveau de la clientèle, au niveau de tout... Au niveau de mes enfants, je refuse, et c'est quelque chose qui me porte, qu'on puisse me mettre dans un cadre ou une étiquette. ça peut être, et je pense que l'entrepreneuriat peut permettre ça, de créer ton commerce à ton image, à ce que tu as envie de voir venir. Voilà. Après le pendant, il n'y a pas tout n'est pas rose, après le pendant, c'est la solitude que peut rencontrer un chef d'entreprise. Parce que globalement, il n'y a plus ces repères. Quand on fait partie d'une équipe, dans une société, on a nos collègues, on a nos coups de mou, on peut compter sur quelqu'un. C'est plus, entre guillemets, plus confortable. Un chef d'entreprise, même pour ses décisions, globalement, même s'il interroge son équipe, il sera seul à prendre une décision. Et c'est toute cette partie-là qui peut être quelquefois émotivante et quelquefois générer des peurs, quoi, des angoisses. Donc, je reviens vers Stéphanie pour ça. Coaching, 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 c'est quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai connu depuis peu parce que je me suis formée. Je suis coach et master coach. Même si le mot coach, on en a parlé, c'est une très grande définition. Okay. voilà, et ben, je trouve que très sincèrement, c'est topissime. Il faut juste choisir la bonne personne. C'est quelque chose voilà, qui, pour moi, et ben, permettra à l'entrepreneur d'aller beaucoup plus loin, quoi. Mais je dirais accompagner. Voilà, accompagner.
Toi, en 2006, donc je pense qu'on ne parlait pas trop du coaching, même si je pense qu'on en parlait dans les élites, dans les entreprises à cette époque-là. Oui. Mais est-ce que depuis, tu t'es fait accompagner ou tu te fais accompagner régulièrement sur des thématiques ou sur une sorte de fil continu? Comment ça se passe pour toi, justement?
Alors, c'est une très bonne question. Si tu veux, là, depuis le Covid, lorsque j'ai fait Ferrandi Entrepreneur, j'ai enchaîné et ça a été vraiment une très, très belle expérience avec la formation de coach de Lina et de David Lefrançois, Master Coach. C'est un cadeau vraiment de la vie et c'est un monsieur très généreux qui transmet des vibrations pour moi très positives. J'ai découvert cet univers-là à ce moment-là et encore une fois, j'y suis venue sans attente particulière et j'y ai découvert, en fin de compte, ce qu'on devrait apprendre à l'école. Hein.
Ouais.
Gestion des émotions, ça, c'est tellement, fondamental pour un chef d'entreprise. Et ça, très sincèrement, on a beau... moi, je sais que ça m'a vraiment surprise, c'est quel est le message derrière ton émotion. Pour moi, c'était très compliqué. Même aujourd'hui, ça reste compliqué de me dire, OK, je peux identifier. Mais même là, c'est un travail encore, presque journalier, d'être à l'écoute pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. Par contre, Stéphanie, je crois que je suis partie un peu en arborescence. C'était quoi ta question première?
Est-ce que toi aussi, tu te fais accompagner régulièrement ou de manière continue
voilà.
sur des thématiques alors, de ton entreprise ou pas d'ailleurs, pas
que l'entreprise. Pendant le Covid, pas du tout. Et ça m'a énormément manqué. Enfin, je vois que globalement, le manque était là. Et je me suis surprise par contre, justement, après coup et après cette introspection personnelle, je me suis surprise à avoir dépassé mes limites, quoi. Avoir été demandé cette formation, avoir été retenue, avoir entrepris une nouvelle carte. Je me suis surprise moi-même et très sincèrement sans être accompagnée. Peut-être si, allez, une fois, j'ai pendant cette formation rencontré une personne qui est un peu, je dirais, coach sans le savoir, une sorte de cabinet de conseil en restauration, je dirais c'est le cabinet sur Paris. Je l'ai rencontré et j'ai vu que globalement, en fait, compte, après coup, être passé à Lina, il avait une posture de coach. Donc, je dirais, sans le savoir, hein, parce que je n'avais pas commencé Lina, j'ai vu, je dirais, les bienfaits de pouvoir être en dialogue avec une personne, c'est-à-dire en questionnement, des questions ouvertes qui te font, en fait, compte, qui te ramènent à toi-même. Ce n'est pas du conseil, ce n'est pas du mentoring, mais un questionnement comme ça ouvert qui te fait conscientiser, et ben globalement, je l'ai vécu sans le savoir. Voilà. Et après coup, j'y ai mis des mots, puisque j'ai été formée, et que je trouve que franchement, c'est fondamental. C'est fondamental.
Est-ce que tu dirais que pour passer les moments de doute, qui a sur l'aventure entrepreneuriale, tu te raccroches toi à une vision. On en parle beaucoup pour les chefs d'entreprise.
Mm-hmm.
Tout le monde y met pas la même chose derrière. Toi, est-ce que tu as une vision et quelle est ta définition si tu en as une? Si tu as une vision.
Alors, pour être sincère aujourd'hui, pour moi, je m'autorise, depuis le passage période Covid et je dirais les limites que j'ai dépassées, Ce que j'ai mis en place, par exemple, aujourd'hui, avec Ferrandi, avec, de façon très personnelle, avec mon mari, on avait entrepris tous les travaux nous-mêmes, la carte, la déco, on a joué sur plusieurs tableaux. Très sincèrement, répète-moi la question, Stéphanie.
Est-ce que tu as une vision
voilà.
de là où tu veux emmener ton entreprise, ou dans les grandes lignes ou des détails d'ailleurs?
Alors, je ne séparerai pas l'entreprise de ma vie.
D'accord.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très sincèrement, et je pense que ça serait bien que, si j'ai un conseil peut-être ou un retour à faire, ça serait ça, de ne pas diviser son pro et perso, et de se questionner sur une vision de sa vie plutôt que son entreprise, même si c'est nécessaire, de jumeler les deux. Donc, pour moi, les deux s'imbriquent. Et derrière, donc, moi, du coup, de quelle façon je réagis, c'est pourquoi, encore une fois, j'étais rentrée dans un paradigme de me dire un diplôme, une évolution, une société, un salaire, et monter en grade. Et bien maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de vraiment m'autoriser toutes les limites, toutes les no-limites, c'est-à-dire plusieurs projets. Ce restaurant-là, il prend une très belle tendance. Je refuse beaucoup de monde le week-end et je remercie tous mes clients. Tous ceux qui nous font confiance et qui adhèrent un peu à nos valeurs. Donc, même si la semaine est toujours un peu mitigée par le télétravail, en tout cas à Paris, mais en tout cas, c'est un vrai succès. Comme quoi, lorsqu'on est vraiment aligné avec nos valeurs et qu'on se donne, je dirais, cette propre démarche sans... On n'avait pas de filet, quoi. Globalement, c'est un vrai succès et qui me conforte, qui ne m'apporte pas autant que ça de satisfaction. C'est presque de l'ordre de l'évidence. Tu vois ce que je veux dire, Stéphanie ? Une satisfaction dans le sens où tu attends quelque chose vraiment, une réussite, un retour financier. Et bien là, je dirais presque, c'est tellement dans l'adéquation et aligné que globalement, ce qu'il en vient me fait du bien, mais sans plus. Il n'y a pas ce côté de challenge, il n'y a pas d'attente particulière. Voilà. Non, j'aurais une démarche plurielle. Ma vision, c'est un travail d'authenticité, un travail, un retour sur soi, envie de contribuer à ce monde. Donc, ce serait une vision plutôt personnelle dans laquelle je mettrais en place des projets. Donc, c'est toujours un travail, je dirais, qu'on ne s'autorise pas jeune, hein, plutôt, je pense, c'est difficile. Un travail en concordance. Je travaille sur moi, j'affine, je sais qui je suis et je mets en place, et vice-versa. Quand je mets en place, je fais évoluer et ainsi de suite, selon qui je suis et comment j'évolue. Je dirais mon luxe aujourd'hui, ça serait ça. Voilà.
C'est un beau luxe et en plus, il doit produire des choses puisque quand on est, comme tu l'as dit, quand on est aligné sur nos valeurs, on les traduit dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui s'ouvrent naturellement parce que c'est juste nous, quoi. C'est juste
ce qu'on est. C'est exactement ça. C'est exact. Et ça, je l'ai constaté. Tu es dans l'attente perpétuelle. Et si, dès qu'il y a attente, c'est à travailler. Quelle est mon attente ?
Oui.
Véritablement financière, reconnaissance, tout ce que l'on veut. Et puis derrière, c'est un combat, c'est une résistance. Et lorsque tu lâches la bride et que tu fais vraiment quelque chose, bien sûr, pas en étant uluberlu, quand tu as des équipes et quand tu embauches, tu te dois de maintenir les salaires et les emplois, mais d'un autre côté, tu fais tellement ça de façon honnête, tu recrutes de façon honnête, tu fais travailler les petits producteurs, et bien globalement, à un moment donné, les résistances s'en vont, quelque chose se met en place et ça attire vers toi une clientèle. Moi, j'étais vraiment, je te dis, je refuse 70 personnes le dimanche. On fait, et encore une fois, je dis merci mon Dieu, je suis quelqu'un de croyant. Donc, et j'en suis, tu veux que je te dise, ça ne m'étonne même plus. Parce que l'attente n'était pas là. L'attente, c'était vraiment d'aller au bout de ce que je pouvais donner dans une période compliquée. L'attente, c'était de maintenir des emplois. Mon attente, c'était de faire travailler des petits producteurs. Mon attente, c'est de faire du bien aux gens qui sortent de 2 ans d'emprisonnement dans leur appart. Et puis, globalement, de faire au mieux de résister à une crise compliquée et financière. Donc, je dirais, elle était là, elle était humaine. Hein. Ma démarche était humaine. Et globalement, derrière, tu vois que tout s'imbrique et tout se met en place. Les petits producteurs sont heureux que tu les fasses travailler et que tu les aies au bout du fil, que tu vas à contre-courant d'un système qui est plutôt industriel. Les salariés, ben, je maintiens, tu avais des gens qui avaient repris des jobs un peu parallèles ou qui sont en attente de reconversion ou qui n'ont pas de job parce que ça reste un peu fermé. Et ben, globalement, tout le monde se met la main à la pâte et c'est un monde diversifié aujourd'hui qui s'ouvre dans mon entreprise. Des gens qui viennent de tous bords, j'ai des jeunes de la Sorbonne, j'ai des jeunes qui sont réalisateurs de cinéma, d'autres qui sont comédiens, et ben c'est tout un monde pluriel, encore une fois, et j'adore ça. J'adore ça, je vis à travers ça. Donc tu vois, c'est ça, l'attente, tu lâches la bride sur l'attente financière et tu réinjectes de vraies valeurs, et ça marche, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison.
En fait, moi, j'entends plus que tu avais des intentions plutôt que des attentes et que tu avais des intentions et tu as lâché l'attente.
Exactement.
C'est ça ? D'accord.
Exactement. Alors, aux entrepreneurs et entrepreneuses, mesdames les entrepreneuses, il y a un vrai potentiel en chacun. Ce serait mon, je dirais vraiment mon super conseil. Faites-vous coacher. C'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire à soi-même. De revenir à soi, parce qu'on oublie. On oublie qui l'on est, comme on oublie des fois, comme moi qui suis dans l'alimentaire, ce qu'est la faim. On mange à des heures régulières, le matin, le midi, parce que ça répond à une journée de travail. Mais globalement, est-ce qu'on revient à des sensations corporelles de la faim ? Très sincèrement.
Ouais, c'est une belle image.
Moi-même, je me suis posé la question, tu sais que c'est exactement ça, Stéphanie, c'est-à-dire que tu vois bien que tout est cadré. On nous cadre, voilà, depuis la naissance pour être, je dirais, des outils de production. Donc voilà, je dirais que ça serait de revenir, alors si au moins cette période-là du Covid serait quelque chose, ça serait de revenir à soi, quoi, de revenir, s'interroger, se permettre, avec bien sûr un minimum de sécurité. Est-ce qu'on peut compter sur un conjoint ? Est-ce qu'on peut compter à mettre, par exemple, si on a une vision à 6 mois ou à 1 an, de mettre un peu, de se dire « je sors moins, je pars un peu moins en voyage » et je mets un peu d'argent de côté tout le temps, réfléchir à une transition financière, mais se permettre après de mettre des petits, ce qu'on appelle la méthode des petits pas, des petites actions pour atteindre cet objectif-là, qui peut être voilà, à court moyen terme. Mais très sincèrement, aujourd'hui, tout est possible. Tout est possible. La formation aussi. Transition pro permet aujourd'hui, voilà, je dirais un autre conseil, on est dans le moment où la formation explose. Donc, bah, permettez-vous de vous former. Qu'est-ce qui manque à votre vision? Qu'est-ce qui manque à votre envie depuis l'origine? Et puis, allez-y, c'est une transition par rapport à l'entreprise actuelle. Et puis derrière, ça permet de s'envoler, quoi. Qu'est-ce qui manque et, voilà, c'est...
J'adore ce questionnement parce que ça interroge beaucoup sur la notion de potentiel. Et souvent, alors je ne vais pas généraliser, ce n'est pas toutes les femmes, mais en tout cas, beaucoup de femmes que je côtoie se bloquent sur le principe que tel que je suis actuellement, je ne peux créer que ça. Alors que si on part sur la notion de potentiel, on peut se dire, comme la question que tu viens de te dire, ben, en fait, j'ai envie de créer ça, donc à ce jour, je suis comme ça, qu'est-ce que je dois compléter pour créer cette vision-là ? Et en fait, exactement. Ça ouvre tous les possibles, comme tu viens de le dire. Et c'est, enfin, merci de ce partage parce que tu l'as incarné toi-même. Tu ne connaissais rien à la restauration. Tu étais dans la banque. Ça peut paraître un gouffre énorme. Et toi, tu t'es pas posé. Enfin, je dis pas que tu t'es pas posé la question de ta légitimité. Peut-être d'ailleurs le syndrome de l'imposteur. On peut en parler là. Mais toi, tu t'es pas fermé la porte en disant, mais attends, moi, je connais que la finance. C'est même pas la peine d'imaginer autre chose, quoi. Toi, tu t'es dit. Enfin,
tu as tout à fait raison. En fait, quand je pense qu'on peut. J'ai un mot que j'ai entendu dans le séminaire de Martin Latulippe qui est slasher. Ça m'a fait sourire. Je pourrais me reconnaître dans ça. C'est-à-dire que tu peux avoir au démarrage, je dirais, il y a quelques années, j'avais cette posture, en petit cas, de un peu bancaire, où tu peux avoir une vision globale et tu peux transposer ce mode de fonctionnement dans un autre domaine. C'est comme ça que je suis partie et que je me disais que c'était possible, même si c'était pour moi une sorte d'ouverture. Je suis partie sur le snacking parce que je me suis dit, je vais pouvoir maîtriser. Je ne suis pas autorisée, tu as tout à fait raison, à aller encore plus loin dans la formation. C'est encore une fois, c'est un vrai questionnement, tu as raison, de se dire, est-ce que je m'autorise ou pas ? Est-ce que je suis légitime ou pas ? Mais j'avais à la fois, je dirais, cette double approche d'une sorte de, je dirais, de matrice de cadre de fonctionnement que j'ai transposée. dans quelque chose que je pouvais développer, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a encore quelque chose qui perdure. Et cette question de légitimité de se dire, tiens, je ne suis pas de ce monde-là, donc je n'irai pas côtoyer un côté bistronomique, par exemple, ce qui est une absurdité, encore une fois. C'est pour ça que je pense que coaching, bien en amont, ça ouvre le champ des possibles. On ne part pas d'un postulat ou de quelque chose qu'on transpose ailleurs, parce que c'est ce qu'on fait en général, hein, jusqu'à se mettre en danger. Je me suis autorisée avec le Covid. Je me suis autorisée de me dire, et si j'allais plus loin? Et si je me confrontais, en fait, compte à ce monde alimentaire dans lequel je ne me sens pas, entre guillemets, légitime? Et j'ai visé le Ferrandi Entrepreneur, qui est une formation qui existe depuis 2 ans et qui touche, bien sûr, à la côté un peu les fondamentaux de tout ce qui est un peu bistronomique, institut gastronomique, mais pareil, par contre, tout ce qui est aussi gestion de l'entreprise d'un restaurant, l'équipe, la carte, la tendance, c'était vraiment très bien fait. Et bien là, tu veux que je te dise, Stéphanie, on se fait un monde de tout, hein. On se fait un monde, mais quand tu mets les pieds, tu te dis c'était ça, quoi. Et là-bas, j'étais comme un poisson dans l'eau, quoi. Je veux dire, c'était pour moi déjà presque de l'acquis. Et tu te dis qu'en fait, tu passes à côté d'opportunités. Parce que tu ne te sens pas exactement légitime ou que tu n'oses pas. Tu te dis, oh ben non, pas moi, ce n'est pas possible. Et quand tu y vas, et quand à un moment donné, tu te dis, ben voilà, c'est le Covid, tu as tout fermé, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je reste sur un canapé à déprimer, ou alors je sollicite un dossier de formation, ok, j'ai 50 ans, parce qu'il y avait aussi l'âge, et tu vas voir ce qui se fait ailleurs. Tu vas te mettre en danger beaucoup plus vite, ou alors tu donnes le tout pour le tout. Et moi, je pense que ça a été ça. Ça a été de dire, je me donne le tout pour le tout dans une période. Où tu n'avais aucun filet, quoi. Tu n'avais aucune visibilité de combien ça allait durer. Oui, bien sûr, syndrome de l'imposteur, je pense qu'il accompagne tout le monde.
Mais là, tu me surprends parce que là, tu as dit, tu te sentais encore illégitime au moment du Covid sur la restauration, alors que tu es installé depuis 2006 dans la restauration.
Mais oui, il y avait une restauration dans le sens où tu fais une restauration, je dirais, qui reste qualitative. Snacking, mais de qualité, et qui reste snacking, c'est-à-dire, je dirais, facile à faire. Tu mets une équipe, tu achètes des bons produits, mais tu ne te confrontes pas, je dirais, à quelque chose de beaucoup plus évolué, parce que tu ne te sens pas, pour toi, c'est des chefs, ou tu as une image, tu as une image de l'excellence. Moi, je pense que ce qui peut toucher beaucoup de personnes, c'est de se dire, j'attends d'être excellent, j'attends d'être au top avant de passer le pas, quoi. Ouais. Et là, c'est ce qui me ressemble, le perfectionnisme, je dirais, et c'est d'une absurdité totale. Je voyais dans le cours, par exemple, mesdames les entrepreneuses, écoutez bien, dans le cours de Ferrandi, je voyais des personnes, mais même pas se poser la question et ne même pas avoir le parcours débuté que j'avais. Et je vois à quel point mentalement on peut être obtus, on peut être fermé. Et encore une fois, toujours, je pense, Stéphanie, je ne sais pas si toi, ça te faisait ça, c'est la comparaison qui te permet de te dire où tu en es. Quelle est ta vision? Regarde comment certains se comportent, comment certains agissent, et comment toi, voilà, tu te comportes dans une telle situation. Il y a un truc qui ne va pas, pourquoi toi, tu fais ça? Et la comparaison, je pense que c'est pour ça, même quand on est entrepreneur, pour les femmes qui désirent l'être et qui vont sûrement passer le pas, c'est toujours rester en contact, peut-être d'associations, de fédérations d'entrepreneurs, autour des petits déjeuners d'entrepreneurs, pareil, association de coaching, d'être au contact toujours, hein, les gens qui rassemblent, c'est en parlant au contact qu'on se dit pourquoi pas cette idée, pourquoi pas moi. Voilà, ne pas rester isolé. Ça serait aussi, un conseil fondamental.
J'entends une question d'infusion d'autres choses auxquelles on est habituellement ouvert quand tu fais ça, en fait.
Exactement. Il y a bien Jung, Carl Jung, le psychanalyste, qui parlait d'inconscient collectif. Ben, je pense que là, très sincèrement, c'est dans ces moments-là que tu percutes, tu regardes, tu assimiles à toi. Il y a des choses qui se passent d'inconscient en inconscient, tu captes. Ben, des fois, pas tout de suite. Des fois, c'est après coup, ça infuse, ça réveille, pourquoi pas. Tu contactes, tu oses. En tout cas, je pense que entrepreneur isolé, non. Entrepreneur, il faut bien passer un maximum de son temps dans son entreprise, c'est certain. Mais ouvert sur les autres, le monde, je dirais, c'est la seule possibilité d'avancer. humainement parlant et d'un point de vue entreprise.
Est-ce que c'est quelque chose, cette démarche, qui te permet de passer outre les difficultés de l'entrepreneuriat? Parce que, si, voilà, si, mettons, dis-moi les trois grandes difficultés que tu vis dans ta vie d'entrepreneuse.
Actuellement ou en général?
En général, juste éclairer les auditrices de cette réalité aussi. C'est quoi les trois plus grandes difficultés?
Alors, tout dépend de ce que l'entrepreneuse, est-ce que c'est une profession libérale? Dès que tu passes à moi, ça reste une petite entreprise, on est 10 salariés.
D'accord. C'est plus la vie de l'entrepreneur d'une manière générale, quelle que soit la taille.
Alors, l'isolement.
D'accord.
L'isolement, parce que quoi qu'il arrive, entre le quotidien, entre la gestion, rapport aux banques, et si tu as une vie de famille aussi, le temps est compté, quoi. La gestion du temps. La gestion du temps, je dirais, ça c'est fondamental. Donc, pourquoi ne pas se faire accompagner aussi là-dessus, hein. Il y a des entrepreneurs qui ne se posent même pas la question, qui ont la tête sous l'eau et qui ne s'en rendent pas compte, par exemple, qui n'arrivent même plus à avoir un jour de congé. Voilà, moi je dirais, voilà, les difficultés, ce serait cette gestion du temps pour pouvoir vraiment avoir à la fois vie de famille et vie professionnelle. Il n'y a pas un choix à faire, ça serait terrible. Ou alors, c'est pas spécialement, on n'est plus dans l'esprit des 35 heures, c'est certain quand on est entrepreneur. Mais par contre, si tu prends du plaisir, le temps, dans ces cas-là, il n'y a plus de tension, c'est top, on a beaucoup d'énergie. Mais derrière, si même tu prends un petit quart d'heure pour toi, c'est des moments intenses. Pas spécialement retomber dans quelque chose de très construit, mais voilà. Mais par contre, pouvoir se donner du temps pour avoir une gestion, je dirais, une hygiène de vie. Je sais que c'est un gros mot au sens large. Mais je dirais, on en revient à l'alimentaire, c'est un peu mon domaine actuellement, mais pas que. Bien manger, est-ce que globalement, voilà, respirer, marcher, lire, je ne sais pas, faire des passions, quelque chose qui nous transcende. En tout cas, quelque chose d'autre que le côté professionnel. Donc, gestion du temps, c'est énorme. Après, moi, dans ma PME, je dirais, de 10 salariés, ça serait recruter. En ce moment, c'est recruter. C'est recruter et former dans mon domaine. C'est très compliqué, tu ne trouves personne. Il y a de vraies reconversions professionnelles. Donc, si, mesdames, vous voulez être dans la restauration, c'est un vrai challenge, mais pas impossible non plus. Pas impossible, il faut juste recruter des gens passionnés qui aimeraient mettre la main à la pâte et les former. Donc, mais ça prend du temps. Donc, je dirais, hyper important de travailler sur soi pour pouvoir accompagner son équipe.
D'accord. Ça
la deuxième. Ouais, voilà. Management. On en parlait tout à l'heure vite fait. Comment?
Communication, tu m'avais dit tout à l'heure aussi.
Ouais, complètement. Est-ce qu'on peut mettre des petits exercices? Alors ça vient de communément, mais de communication non violente dans son entreprise. Et quand on parle de management, est-ce que demain je fais en sorte que, ok, je propose des petits producteurs, mais est-ce que je fais en sorte aussi que mon équipe soit heureuse? C'est bien de donner un côté market à son activité, mais ça doit aller au-delà du non visible, par exemple. Et le non visible, ce sont les équipes. Est-ce que demain je leur propose une évolution, des formations? On est en plein dedans. Comment je peux les récompenser? Comment je peux les fidéliser? Donc je dirais, il y a ça aussi. Donc, un, gestion du temps. Deux, est-ce que moi-même, je suis en évolution constante pour me dire que je suis toujours au même de cette entreprise et je suis toujours leader pour mon équipe, la fidéliser et l'accompagner aussi d'un point de vue bien-être au sein de mon entreprise. Donc ça, c'est fondamental. Alors, on ne fait rien seul. Voilà, tout dépend de la taille de ce que l'on veut faire. On ne fait rien et c'est un leurre de se dire je suis le chef et j'ai mes sous-fifs. Très sincèrement, voilà, il faut se mettre dans la tête, moi je pense, quand on veut créer quelque chose, de se dire aujourd'hui, ok, je monte quelque chose, mais ce n'est pas moi toute seule, ok, moi qui prends les décisions, je suis responsable financièrement, juridiquement, pénalement aussi d'ailleurs, mais derrière, j'ai conscience que quand je recrute, c'est du collectif. Mon entreprise ne vit que s'il y a du collectif. Alors, est-ce que je suis prêt à avoir cette casquette-là, de me dire, j'ai une responsabilité humaine de mon équipe. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me correspond? Encore une fois, on en revient à l'intention. Est-ce que c'est pour faire du blé, de l'argent? Ou est-ce que derrière, c'est une valeur sûre que je veux créer, qui a un impact sociétal, qui maintient des emplois, qui fait vivre des familles, qui fait vivre, souvent, il y a des, voilà, des personnes avec des enfants, donc tu te sens responsable. Donc, c'est est-ce que demain, je suis prête à travailler sur moi et à accompagner l'autre? Il y a aussi quand même, voilà, on a beau le dire, on ne le dit pas assez, une casquette presque psychologique.
Ce que j'entends de ta manière, en tout cas, d'être et de formuler les choses, c'est que tu fais beaucoup vivre les intentions et tes valeurs. On a l'impression que c'est vraiment tes fondations pour ce projet-là de restauration, mais finalement pour tous les autres projets, parce que c'est quand même pas tout le monde qui arrive à jongler avec autant de casquettes. Alors effectivement, la notion de slasher, heureusement qu'il y en a et tout le monde ne l'est pas, et heureusement dans les deux sens. Mais toi, c'est tes intentions et tes valeurs qui semblent filtrer et irriguer tout ce que tu fais.
Tu vois, par exemple,
toujours ça.
C'est ça, Stéphanie. C'est-à-dire que quand j'ai fait également au démarrage, j'avais une intention de travailler, j'ai toujours eu avec les autres, parce que je l'ai fait avec mon entreprise. Quand je me suis inscrite à l'INA, c'était aussi une démarche personnelle, mais c'était aussi une démarche professionnelle. Je me disais qu'en parallèle de mon restaurant, j'aimerais pouvoir accompagner l'autre, mais sans idée préconçue, puisque je ne savais même pas ce que c'était le coaching. Donc, globalement, je me suis dit, je vais aller vraiment neutre, aller vierge, concernant ce domaine, pour pouvoir, je dirais, l'appréhender au mieux. Quand tu viens avec des idées bien, bien préconçues, tu te fermes pas mal de portes. Et très sincèrement, on me pose quelquefois la question, est-ce que tu fais du coaching? Mais j'en fais tous les jours. Quand je suis au sein de mon entreprise, tu sais quoi, j'en fais tous les jours. En fait, compte ce que tu apprends, tu peux le transposer dans tout. Il suffit en fait de se dire, qu'est-ce que j'apprends? Est-ce que c'est encore une voie tout tracée? Ou est-ce que je peux le mettre au profit d'activités parallèles? Est-ce qu'il y a le cas dans ton quotidien, dans ta vie? Ce que tu apprends là en termes de coach, est-ce que déjà tu t'appliques à toi-même? C'est déjà un travail de longue haleine et journalière. Est-ce que tu le fais au sein de ta famille? Est-ce que tu fais profiter, sans dire que c'est du coaching, de certaines choses que tu as appris? Est-ce que tu le fais au niveau de certains jeunes que tu rencontres en recrutement au sein de ton équipe? Ça, je le fais. Je le fais, mais sans le dire. Voilà, de façon, tu amènes les gens à savoir ce qu'ils veulent, vers quoi ils veulent évoluer. Donc, très sincèrement, et tu peux inspirer aussi. Est-ce que ça peut être une je dirais, tu vois, donc, de tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, de tout, et c'est valable, voilà, mesdames, le but, c'est de passer à l'action. Je pense que le coaching est vraiment fondamental. En accompagnement, par exemple, d'une formation choisie, d'une thématique, et dans cette formation et mise en application, il va se découvrir des choses. Je pense très sincèrement, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le coaching, parce que c'est vraiment pour moi deux mots que je retiendrai, c'est je conscientise et je passe à l'action. Sinon, tu peux toujours aller philosopher, tu peux débattre, rester sur quelque chose de l'ordre de l'idée, de la pensée, mais là, je trouve que ça nous force à un moment donné, si on n'ose pas pour X raisons, passer à l'action. Donc, d'une formation, tu vas apprendre sur ton chemin ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, tu vas aller plus loin et tu complètes. Et l'aide d'un coach peut être aussi fondamentale. Alors, pour aller plus loin, inspirer aussi, sans que ça passe par une relation financière, ce que tu fais, en tout cas de façon adorable, Stéphanie, à travers tes vidéos, c'est génial. Je suis allée dernière fois sur ta chaîne, j'ai répondu oui, autant te dire, c'est la première vidéo que je fais. J'ai répondu oui parce que tu m'as inspirée. Quand tu parlais dans tes vidéos, je me suis reconnue, je me suis entendue. Je me suis dit, c'est une dame authentique et qui veut donner, qui est généreuse. Donc, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui.
Merci, c'est vrai pour que tu là, m'as dit.
Parce que je suis dans l'échange. Et indirectement, pourquoi? Quand j'ai fait cette formation à l'INA, je partageais souvent avec mon fils aîné. Par exemple, il est TDAH. Et donc, tout ce qui est hyperactivité, mais intellectuel. Et il a 25 ans, et très sincèrement, ça l'handicapait. Je voyais que ça le mettait un petit peu à l'écart. Il avait un traitement, donc c'était un peu, il a été vu sur le tard, donc c'était un peu compliqué pour lui, même si c'est un garçon très intelligent. Écoute, j'ai échangé mon savoir, sans parler de coaching. Je lui ai parlé du test de Braveman sur les neurotransmetteurs qu'il a fait. Il a vu qu'il était à l'équilibre avec des médicaments. Je lui ai parlé de dopamine, je ne connaissais pas. Je lui ai parlé de sport qui en produit naturellement et qui l'assimile au niveau du cerveau. Alors, merci David Lefrançois au passage. Eh bien, je vais te dire aujourd'hui d'avoir par petites touches parlé, interloqué, réveillé. Aujourd'hui, il suit la formation d'INA.
Ah,
il a 25 ans. Il a mis ses études de mathématiques entre parenthèses. Il suit la formation d'INA et son intention, c'est d'accompagner parce qu'il est passé par là. Il a arrêté le traitement volontairement. Il s'est mis au sport et il essaye d'évoluer, d'apprendre, gestion, tout ce qu'il fait. Donc là, il est actuellement... Et bien, tu vois, regarde, de tout ce que tu apprends, Stéphanie, ce n'est pas monocorde et une voie toute tracée. Tu peux, par petites touches, impacter ton monde. Regarde, à travers des vidéos, tu m'as impacté. À travers un message, tu m'as attiré. Et je trouve que je suis très contente de ce partage, parce qu'il me fait aussi travailler sur, en tout cas, qui m'apporte beaucoup. Il me fait travailler sur ma conscience, sur mes idées. Il me valorise aussi, c'est une mise en avant, c'est une confiance en soi établie, une zone de confort que je dépasse. Alors, merci Stéphanie.
Ah bah, je t'en prie, moi je t'en prie, merci pour tous ces mots et puis bravo à ton fils parce qu'effectivement, arrêter un traitement de TDAH, c'est pas anodin. Et merci pour
bravo
cette.
Bravo la vie.
Ouais, et puis.
Bravo la vie, vraiment.
Ce que tu dis quand même derrière, c'est aussi que ce soit un leader, un manager ou un coach, finalement, on est aussi des passeurs d'informations. Là, tu
exactement.
Vois, le test de Breverman ou cette notion de neurotransmetteur, c'est vrai qu'on le dilue dans des coachings comme ça. Et en fait, c'est d'un apport d'information, c'est même plus du coaching. Donc, il y a plein de casquettes en fait qu'un entrepreneur peut porter. Et je crois
exactement.
Que la casquette de coach, elle est importante. Je crois qu'elle est importante.
Pourquoi se limiter? Pourquoi c'est pour ça que j'ai aussi aimé, en fait, quand Martin Latulippe avec son académie, j'adore ce titre, Zéro Limite. Mais j'adore ça. Je me dis, pourquoi se limiter? On te donne quelque chose. Fais-en ce que tu veux. Apporte-le à ton voisin en bribe. Tu peux peut-être, j'ai passé un livre à mon voisin d'ailleurs sur la communication non violente. Il parlait d'assaut qui vient on parlait de certaines banlieues, il y avait beaucoup de violence. Et je lui ai parlé de communication non violente avec Thomas Donsbourg. J'avais acheté donc le livre, son livre, et je lui ai passé. Je pense que tu vois, c'est ça. Fais de ce que tu apprends. Tu peux le faire en coaching, bien entendu, parce qu'il y aura une forte demande et je trouve que c'est une action complète et une démarche complète. Très sincèrement, c'est un. Voilà, mais tu peux aussi la porter par bribes et puis peut-être la personne y venir au le moment venu. Je pense qu'il y a toujours des interactions qui se font et qui font avancer la vie, quoi. Et c'est beau, je trouve. C'est très beau.
Et un
soyons
entrepreneur.
Soyons des passeurs. Soyons des passeurs.
Mais je crois que c'est aussi ça qui titille de plus en plus de personnes, et notamment de femmes, de se dire de quitter le salariat pour oser s'épanouir, parce que l'entrepreneuriat, c'est nous qui définissons notre cadre, alors qu'en tant que salarié, on nous définit un cadre.
C'est
et
vrai.
On peut être un passeur quand on a son propre cadre et pas celui qu'on nous impose, je trouve.
C'est tout à fait vrai, exactement. Je dirais qu'à la limite, si c'est ça, que l'on peut, le fondamental, c'est créer de la valeur ajoutée, oser perturber, je dirais, le flot continu, même si c'est à contre-courant, apporter de la nouveauté, même si ce n'est pas rentable tout de suite, on s'en fout, mais on est profondément ancré dans ça. Et puis, franchement, aussi se le permettre avant de mourir.
Ouais.
Allez, on retient juste la finalité, très sincèrement, est-ce qu'on regrettera ou pas? Et quel est le risque final? Est-ce qu'on va en mourir et passer à l'acte? Juste mettre un peu de sécurité de côté et après oser. Ben, qu'est-ce qu'on perd? À la limite, de ne pas réussir, mais on aura appris tellement de choses et on aura osé, quoi. Qu'est-ce qu'on perd en final? Le regard des autres, mais tant pis, quoi. On trouvera peut-être des gens autour de soi qui nous seront admiratifs. Et qui diront, ben, la top, t'as osé, et ainsi de suite. Et puis d'autres qui sont un peu moins sympas, ben, on les laisse sur le côté, quoi. C'est pas grave. Il y a toujours l'effet miroir. Les moins sympas, c'est qu'ils s'interrogent eux-mêmes.
En t'écoutant, je me dis aussi que, en fait, finalement, on perd des choses dans une aventure entrepreneuriale parce qu'on a besoin de les perdre pour pouvoir se révéler aussi, finalement.
C'est certain. C'est certain. À chaque étape. À chaque étape. Alors, et c'est certain, c'est vrai, il y a une forme de notion de sable mouvant. Il n'y a pas ce côté. Mais la vie, je pense qu'elle est ça aussi. Après, on peut confronter son idée que l'on a de la vie et son rapport à la mort. Je pense que c'est une vraie question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous retient principalement? C'est qu'on est. Je pense que l'arrière-fond de l'arrière-fond, La peur du changement, c'est la peur de mourir, quoi. C'est la peur de, c'est vouloir tout maîtriser, c'est vouloir ce besoin de maîtrise, en tout cas, de logique perpétuelle. C'est vraiment la peur de l'instabilité et la peur de quelque chose qui pourrait nous arriver. Le plus dramatique, c'est la mort. Et moi, je pense que si on se confronte à ça, si on accepte, hein, encore un autre travail, on acceptera beaucoup de choses et beaucoup plus le risque, la notion du risque. C'est pour ça que pour moi, l'entreprise et le personnel ne peuvent pas être dissociés. Les deux démarches doivent être abordées en même temps. Le coaching peut permettre, en tout cas, on va dire que je fais la promotion du coaching parce que je l'ai vécu, mais le coaching fait cette approche, ce parallèle-là, et je trouve ça formidable, avec ce passage à l'action. Donc, c'est pour moi 100% entrepreneurial. C'est pour moi 100%.
Oui.
On est d'accord. Un psychologue ou quelqu'un ou un philosophe va pouvoir débattre sur des idées, mais va nous laisser en plan avec nos idées. Là, on peut débattre, on peut régresser, on peut se projeter, mais on peut aussi à un moment donné se dire, bah, j'ai un cahier des charges, je passe à l'action, parce que le but, il est là.
Ouais. C'est très, très enrichissant et très. Je continuerai pendant des heures, mais je vois que l'heure tourne. Donc, tu as ton temps d'entrepreneuse aussi. Si on s'autorise, si tu t'autorises à rêver devant moi, ta réussite, ta projection dans 2 ans, c'est quoi?
Ma réussite dans 2 ans.
Ouais.
D'être pluriel. D'être pluriel. Un restaurant, oui, certes. Multiplier peut-être. Hier, j'avais reçu, alors on parle de synchronicité. Hier, je suis arrivée au restaurant, j'ai une dame qui m'appelait pour participer au développement du parc de la Villette. Il y a un gros parc de 25 000 carrés avec plein des stands de food un peu précurseurs et des activités pour les urbains, pour les Parisiens de 30 ans. Ils sont en train de mettre en place un truc énorme. Et elle me parlait de ça, qu'elle voulait donc qu'on intègre aussi en partie ce. Et c'est quelque chose dont je ne m'attendais pas. Tu vois, donc quand on met en chose des places, des valeurs, ça vient, il y a des choses qui viennent. Et je venais juste d'arriver, j'y suis pas totalement tout le temps. Et c'est quelque chose qui me travaille, tu vois. Donc, tu me parles de vision, ça fait partie de quelque chose sur laquelle je m'interroge. Un développement, oui, comment est-ce que tu peux garder tes valeurs quand tu te développes à des stades beaucoup plus larges? Ça, c'est encore une question donc, que je me disais, je me laisse le temps de la réflexion, ce qui n'empêchera pas que je la recevrai et que je l'écouterai. Est-ce que ça rentre dans le nouveau moi d'aujourd'hui, celle que j'ai laissée un peu sur le côté et celle que je suis devenue aujourd'hui? Ma vision de 2 ans, ben, écoute, comment je serai moi dans 2 ans? Ce que je souhaite, moi, fondamentalement déjà, c'est que mon entourage soit en bonne santé. Ça serait, mais ça ne dépend pas de moi. Mais ça peut peut-être un peu contribuer par une présence, un apport, un réconfort. Donc, ça serait cette vision d'avoir un entourage serein. J'aimerais ça et le moins amoindri par la vie. Et si demain, faire des projets qui contribuent, qui maintiennent des emplois, j'aimerais être pluriel. J'aimerais travailler dans le coaching aussi. Entrepreneurial, peut-être, sûrement. Comment, je ne sais pas encore. Je me donne à peu près encore 1 an pour me dire que je suis au plus juste. Après, donc voilà. Mais en dehors de ça, j'aimerais faire quelque chose aussi, pourquoi pas sur le web. Parce que voilà. Donc, comme j'intègre aussi l'Académie Zéro Limite avec ce cher Martin Latulippe, donc c'est des apports. Donc, je mets en place des choses. Je me questionne et je me forme. Donc, je pense que ça peut être le trio gagnant. Et, bah, quelle sera la vision? Encore une fois, voilà, la vision pour moi, ça serait d'avoir un entourage serein, des enfants pas sans difficulté, mais heureux, et des choses qui viennent à moi et que peut-être je retiens ou je ne retiens pas, et on verra. Voilà. Mais j'apprends. J'apprends, je dirais que quelque chose d'apprentissage et la confrontation à l'autre, l'échange. C'est quelque chose qui m'anime. Voilà.
Et on le
Et on
voit, il te
verra.
transmet très bien. Donc, merci pour tous ces retours, en tout cas. Les 2 dernières questions. Quel conseil tu donnerais à ton toi d'avant la création d'entreprise? Tu étais encore à la banque.
Coaching.
Coaching.
Être accompagné. Coaching. Par une personne qui nous ressemble. Bien se renseigner sur la personne, connaître son parcours. Dans quoi elle peut avoir une expertise, prévoir un petit budget. Il n'y a rien sans rien, mais c'est globalement aussi le tarif que l'on se donne. la valeur qu'on se donne. C'est aussi contribuer en faisant appel à un coach indépendant à plus de valeur dans le monde. C'est une contribution, une chaîne qui lui permettra aussi de continuer son activité et de pouvoir accompagner d'autres personnes. Donc, je pense coaching pour revisiter ses valeurs, pour faire un point sur soi et à un moment donné, faire un choix, mais qui ne sera peut-être pas définitif, mais qui sera là en tout cas, voilà, qui sera effectif.
Très bien. Donc, je vais anticiper peut-être la réponse à la dernière question. Quel conseil tu donnerais aux femmes qui nous regardent ?
D'oser.
Ouais.
Oser accompagner. Non, mais vraiment d'oser. Et puis peut-être, moi, je suis un peu dans l'extrême, avoir en tête de dire qu'on va mourir, quoi. Se le rappeler qu'il y a une deadline, mais globalement, ça peut être demain comme dans quelques années, mais ne pas avoir de regrets. Et puis, si c'est difficile, eh bien, je peux le comprendre. C'est pas facile de dire oser comme ça. C'est vrai que c'est un peu le saut en chute libre, quoi. Donc, je sais que c'est dur. Je sais, moi, je suis passée par là. C'est pas évident. On passe par plein d'angoisses, plein de questionnements, et c'est normal. Encore une fois, ce que je veux dire, c'est que ça reste normal. On n'est pas faible de se poser toutes ces questions-là. C'est pas anormal. C'est tout le monde se les pose. Et la confiance en soi, je pense qu'elle est, encore une fois, c'est le sujet de toute une vie et pour tout le monde. C'est revenir à des valeurs comme ça, se dire qu'on n'est pas le petit canard un peu boiteux. Et puis après, derrière, oser, et si vraiment c'est difficile, à un moment donné, ou même si ce n'est pas difficile, si on veut aller encore un peu plus loin, je pense que vraiment, l'accompagnement, c'est la meilleure chose que je pourrais dire pour pouvoir dépasser ça et gagner du temps. Gagner du temps et je dirais, limiter un peu des... certains chemins, donc ça fait gagner du temps. Voilà.
La vie adore l'audace aussi et y répond en général. Et c'est ça qui fait que oser, ça répond. Si on n'ose pas, on reste dans notre carcan et on devient, comme tu as dit, les regrets, les remords, c'est difficile quoi à vivre. C'est difficile.
Ça peut être par étapes aussi, Stéphanie. Ça peut être par exemple en gardant un job. Et peut-être en étant en parallèle dans une activité progressive partielle. Mais déjà mettre un acte en place, quelque chose. Après, si on ne se sent pas le courage d'être seul, c'est vrai que ce moment de solitude vient souvent, c'est de le faire peut-être à deux.
Oui.
Ça peut être aussi une alternative plurielle. Voilà, donc, mais essayez de voir. Mais c'est sûr que le questionnement permet plus sereinement. D'enlever tout ce brouhaha qu'on peut avoir dans la tête qui nous retient en fait. Ouais.
Comme tu l'as dit, l'être humain est par définition créatif. Donc en fait, je crois que les femmes, elles ont aussi cet intérêt à vraiment se poser la question à elles. Et si tout était possible, quelle est la plus petite action que je ferais demain ou aujourd'hui?
Exactement.
Ouais. Et ça, mais bon, ça, tu l'as appris comme moi.
Et exactement.
Mais écoute, je te remercie.
En plus, avec plaisir, Stéphanie. Après, une petite chose que je voulais rajouter, Stéphanie, quelque chose, tu parlais des femmes là en finale. Les femmes ont une façon de créer, de diriger propre à elles-mêmes. Elles amènent beaucoup d'expertise. Malheureusement, elles doivent faire même beaucoup plus que les hommes pour pouvoir être reconnues. Beaucoup d'expertise et beaucoup de douceur dans un management. Et je pense qu'elles ont une véritable, outre le fait d'oser, contribution au monde. En se mettant en action. Je pense que ce monde-là a besoin de douceur et de ce duo gagnant qui est l'expertise et la douceur.
Je crois que les valeurs féminines sont en train de revenir et plus il y aura de femmes qui oseront l'entrepreneuriat, plus ça sera diffusé et diffusable et aussi de l'inspiration pour les hommes. Mais j'y crois de plus en plus. J'y crois de plus en plus. En tout cas, Nathalie, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as une citation, un mantra pour finir ta propre interview ?
J'en ai plein, mais tu sais que je ne retiens rien dans ma tête. Et j'ai, en fait, quand, je vois que je dois être un petit peu rebelle. Je suis jamais, je m'entoure jamais de phrases très. Elles m'inspirent, mais je ne vais pas en faire un mantra. Je suis presque un électron libre. Par contre, il y en a une que j'avais entendue, mais je ne sais pas si ça servira de mantra. Que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et moi, je pense que pour l'entrepreneuriat, c'est fondamental. Si globalement, on n'a pas l'état d'esprit de se dire on est un collectif, malgré le fait que ton collègue a un contrat de travail, c'est le respecter, il fait vraiment partie de ta réussite, une réussite en commun. Voilà, moi, je pense que ça serait ça, et c'est vraiment quelque chose que j'applique dans mon quotidien.
Écoute, je te remercie, tu me portes très bien en tout cas, cet ensemble, on va plus loin. Tu l'as montré aussi bien à la banque parce que finalement, tu étais ensemble pour aider enfin, ces entrepreneurs que tu avais en France. Et puis là, quand tu me parles, alors moi, tu m'as parlé un peu en off aussi de comment tu aidais les salariés, tes propres salariés qui voulaient se reconvertir ou pas. Et j'ai trouvé ça d'une humanité exceptionnelle. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, mais merci pour toutes ces belles valeurs.
Gentil.
Merci de les transmettre. Aussi à tes enfants, parce que cet enfant, ça va faire plein de cercles concentriques merveilleux et c'est génial.
Exactement. Et merci Stéphanie aussi. Merci pour ce que tu fais. Regarde-moi, en tout cas, ça m'a interpellée et j'ai pris énormément de plaisir à partager avec toi aujourd'hui. Voilà.
Eh bien,
C'est
écoute, merci, c'est
beaucoup de
partagé.
plaisir, beaucoup de réflexion, d'introspection et voilà, ça m'apporte beaucoup aujourd'hui. Ça
Ben,
m'apporte.
je te remercie.
C'est une première.
Bah c'est génial et j'en suis heureuse d'en bénéficier en tout cas. Donc merci beaucoup. Et Nathalie, je te demanderai de me donner tous les liens pour que sous la vidéo, si les gens veulent te trouver, alors les Parisiens pour peut-être bénéficier d'Apego, mais aussi si d'ici que l'interview paraisse, tu t'es lancée dans le coaching, et bah qu'on puisse travailler avec toi. Donc voilà, ça sera en général, c'est ce qui est bien dans ces interviews, c'est qu'on vous trouve facilement si on veut vous
Ok.
rencontrer. OK?
Avec plaisir, Stéphanie. Beaucoup de bonnes choses pour toi aussi.
Merci beaucoup Nathalie, à
Beaucoup de
bientôt.
bonnes choses. À
Merci,
bientôt.
au revoir.
Au revoir.